Vous êtes sur RTL.
RTL Matin,
6 minutes pour trancher.
8h24, le gouvernement se mobilise depuis plusieurs mois contre les violences conjugales et particulièrement contre les féminicides. Et ce matin, des chercheurs affirment que la réduction de la consommation d'alcool en France permettrait de diminuer justement les drames familiaux. Problème, les addictions n'ont pas été évoquées lors du Grenelle contre les violences conjugales. Bonjour Michel Reynaud.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes vous-même médecin, président du fonds Action Addiction. Avant de commencer ce chiffre, dans 55% des 121 féminicides de l'année 2018, les médecins ont relevé la présence de substances comme l'alcool ou les drogues. Dans ces drames, l'alcool est-il contributif ou directement en cause ?
Alors maintenant, on sait que c'est un facteur causal. C'est un facteur causal parce qu'on a de multiples travaux expérimentaux et puis des analyses sur des grandes cohortes qui montrent que l'alcool facilite le passage à l'acte, désinhibe, alors parfois sur des personnalité particulière, peu empathique, l'augmentation du risque d'avoir des violences conjugales quand on est avec quelqu'un qui est dépendant est de l'ordre de 3. Dans tous les pays du monde, 80 000, on a 3 fois plus de risque d'avoir des violences.
Là, vous venez de nous dire, pardonnez-moi, que l'alcool multiplie par 3 le risque d'agression, je vous ai bien compris.
Oui, c'est ça. Et plus encore, lorsque la femme a déjà été victime d'une violence, quand on suit des journaux intime pendant 16 mois, oui. C'est ce qui a été fait. Le risque est multiplié par 8 lorsque la personne a bu et par 11 lorsque c'est une violence importante. Donc il y a une corrélation, mais tout ça est progressif. C'est ce qui rend la perception compliquée pour la population. Il y a parfois des petites violences chez des gens qui ont trop bu le soir après. Et puis il y a l'installation de violences de plus en plus importantes dans un couple qui reste quand même lié, ce qui n'est pas peu pris en compte dans le féminicide, puisque ce que l'on dit, enfin le féminicide évidemment ça peut pas être pris en compte, mais dans la façon de protéger des violences, on dit il faut séparer. C'est compliqué en couple, ça ne se sépare pas si facilement, donc il y a tout un travail à faire, dans lequel la prise en charge de la personne qui boit peut être un facteur tout à fait important de retour à la normale.
À ce stade, je vous ai dit au moment où vous êtes rentré dans ce studio, donc il faut partir à la première baffe, et vous m'avez dit non à la seconde.
Non à la seconde, oui, c'est un peu un peu exagéré de votre part et de la mienne, oui. mais ça simplifie trop le couple, mais lorsqu'il y a eu une violence, elle a tendance à se reproduire et plus encore lorsque quelqu'un prend des produits, on sait qu'elle se reproduira. Donc, ou il n'y a plus de violence, ou il accepte de se soigner, ou il faut qu'elle en tire les conséquences.
Vous venez de dire les produits, ça veut dire que vous n'isolez pas l'alcool dans tout ça ?
Alors l'alcool est de loin
l'alcool,
le plus
la
important
drogue,
parce, que c'est,
ouais.
parce que c'est le plus fréquent, mais on sait aussi que la cocaïne et les amphétamines facilitent les passages à l'acte, même les tranquillisants, ce qu'on appelle les benzodiazépines, ont parfois des effets paradoxaux, notamment avec l'alcool, et peuvent faciliter des passages à l'acte qui sont oubliés le lendemain. C'est-à-dire, même avec l'alcool, je ne me souviens pas de ce que j'ai pu faire.
Alors, il y a une notion intéressante que j'ai découvert en préparant cet entretien, c'est la notion de myopie alcoolique. C'est une altération des sens. Vous pouvez nous expliquer ça ? De quoi on parle ?
Lorsque quelqu'un a bu, il oublie les conséquences de ce qui va se passer.
De ses actes.
Il reste fixé immédiatement à ses sensations internes. Et sa sensation interne, ça peut être la colère, l'impression d'avoir été humilié, la jalousie. Et il n'y a plus d'analyse de ce qui va se passer après.
On a aussi souvent des témoignages qui évoquent le conjoint qui est un ange quand il est sobre, mais qui change totalement de comportement quand il commence à boire.
C'est ce qui rend les choses compliquées. C'est ce que l'on voit, nous, ce que j'ai vu pendant des années dans les consultations, les épouses qui venaient en disant « il est tellement magnifique, c'est le plus gentil des hommes, ou je l'aime passionnément ». Sauf quand il a bu, où ça devient un monstre, et où il tape ce qu'il y a, il tape la table, il tape sa femme, il tape les infirmiers, il tape les policiers. Il y a une espèce de déchaînement de violence, et ce déchaînement de violence, on sait qu'il se reproduira dans les mêmes circonstances si la personne boit. Et donc là, il y a Et ces couples peuvent durer pendant des années, et donc il y a des choses à récupérer. Ils ne veulent pas se séparer. Il ne faut pas avoir une analyse trop binaire en disant il faut absolument que les gens se séparent. C'est plus compliqué. Hein.
Comment le conjoint qui est victime de ces violences, alors peut-être au départ déjà psychique ou moral, peut-il conduire son conjoint en lui évoquant le problème, et qui est celui alors, finalement de l'alcoolisme ou de la dépendance ?
Là, ça dépend du lien que l'on a, mais il faut en parler évidemment quand la personne est sobre et lui dire que pour le couple, il convient de consulter. Ce que l'on voit là, lorsque les violences sont installées, c'est la nécessité de porter plainte, et fort justement pas simplement de se limiter à la main courante, qu'il puisse y avoir une action de justice, que dans cette action de justice, il puisse y avoir une obligation de soins, et à partir de là, la victime peut choisir de rester ou de ne pas rester si le sujet se soigne ou ne se soigne pas. Et il y a moyen de vérifier qu'il se soigne et il y a moyen de vérifier que les choses vont mieux.
Parmi les propositions que vous faites ce matin, il y a la création d'un registre de suivi des violences liées à l'alcool.
La première des choses à faire, c'est que la population française est une perception de la gravité de ces dommages. Or, elle ne l'a pas pour le moment. Nos systèmes de recueil d'informations, notamment de la justice, ne mettent pas ça en valeur.
Parce que l'alcoolisme est une maladie honteuse ?
Non, parce qu'en France, il est très difficile de parler des dommages de l'alcool. On commence à parler des dommages sanitaires, mais les dommages sociaux ne sont pas bien répertoriés. Donc, les chiffres que l'on vous donnait, je crois que la population les perçoit assez peu. Là, plus de la moitié des violences, il y a de l'alcool essentiellement ou d'autres produits. Ça n'est pas perçu. Donc, il faut d'abord que ceci soit dans toutes les têtes. Et pour que ce soit dans toutes les têtes, il faut qu'il y ait des analyses, évidemment dans les féminicides, mais également dans chacune des violences. Il doit y avoir une analyse des consommations.
Alors, il y a une autre proposition qui va faire réagir. Pour limiter l'accès, vous préconisez de fermer les bars plus tôt. Si les bars ferment à minuit, ce sont des vies sauvées ? Excusez-moi, j'ai du mal à le croire.
Oh ben, il y a eu plusieurs études en Australie, en Angleterre. Quand on ferme le bar une heure et demie plus tôt, il y a 30% de violence en moins. Alors ça fait un certain nombre de vies sauvées.
Ah oui,
et de façon empirique, un certain nombre de maires qui ont chez eux des rues de la soif, des séries de bars dans lesquelles ils savent qu'il y a des violences, ont compris qu'il fallait arrêter plus tôt ou arrêter de servir de l'alcool. On peut servir autre chose que de l'alcool.
Un dernier mot avant de nous séparer, Michel Reynaud. Est-ce que rendez-vous est pris avec Agnès Buzyn pour évoquer toutes ces questions ?
Oui, après le fait que nous soyons inquiétés, sur demande de groupes de patients. Hein, c'est eux qui ont dit « mais c'est pas possible qu'on ne fasse rien ». Il y a eu la lettre de l'association de patients, puis la lettre des experts, et on a effectivement reçu une invitation pour détailler nos propositions dans le cadre du Grenelle et relance conjugale. Donc on sera très attentifs, mais j'espère que celles que nous avons faites seront reprises.
Pour un malade de l'alcool, c'est 4 à 5 proches qui seraient affectés et qui souffrent, et ça représente 8 à 10 millions de personnes, selon vos chiffres, dans notre pays. Bonne journée à vous, Michel Reynaud.
Merci à vous.
Merci.
Merci de votre invitation.